Vous êtes bien sur Radio FMR et nous allons parler d'un sujet qui est rare sur notre antenne, de musique classique. Et si nous allons en parler, c'est que sa captation en SWAT est une réelle performance. Et si nous vous parlons des technologies du son numérique, nous avons l'opportunité d'en parler avec un spécialiste qui applique son art sur la musique savante. Nous avons la joie de recevoir par satellite Dimitri Scapolan, opérateur son de Radio France, réalisateur vidéo, savoyard actuellement confiné et recommandé personnellement par un ancien de Radio FMR, Marc Voinchet, devenu directeur de France Musique. Et nous le saluons bien bas.
C'est PU, carré, petit utile.
Comment êtes-vous devenu ingénieur du son ?
J'ai suivi tout d'abord des études de violon. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait des études scientifiques. Et puis, j'allais dire, c'était la rencontre entre plein de choses, plein d'événements. Au moment de mon bac, j'ai rencontré un jeune violoniste très très connu maintenant qui s'appelle Renaud Capuçon. Nous connaissons maintenant depuis 25 ans, nous sommes tous les deux de Chambéry et moi je n'avais pas du tout le niveau musical pour envisager d'être violoniste comme lui l'est maintenant, mais en tout cas il m'a donné envie de m'intéresser à des métiers parallèles qui étaient un petit peu le croisement des chemins entre, on va dire, le scientifique, la musique et puis voilà, un espèce de poste où on est un petit peu dans l'ombre et en même temps on jouit de cette possibilité de côtoyer la musique et de côtoyer les artistes. Donc voilà, je pense que j'ai suivi un parcours un peu en zigzag. J'étais pas vraiment une flèche dans les études, donc j'ai passé le concours du Conservatoire de Paris sans jamais l'avoir eu. Et puis je dois une grosse partie de ma carrière et de mon savoir-faire à Radio France, puisque on a la chance de pouvoir commencer comme simple opérateur, d'être pris en charge et puis d'évoluer dans des métiers transverse, très très différent. Et moi j'ai eu la chance de devenir opérateur du son. J'ai fait du plateau avec Stéphane Bern, j'ai fait du plateau avec Isabelle Dordain, j'ai fait du inter, j'ai fait du info, du culture, de la fiction. J'ai touché à vraiment vraiment à tout. Mais ce qui m'intéressait la plupart du temps, et ce qui m'intéressait vraiment en priorité, c'était la musique classique. Moi je me suis toujours aimanté sur ce domaine-là. Et de 2007 à 2017, j'ai été opérateur du son en post-production. J'ai fait beaucoup d'opéras, beaucoup de productions liées aux orchestres et aussi à la télévision. Voilà comment je suis devenu opérateur du son.
À l'origine, donc, dans votre formation spécifique pour devenir ingénieur du son, vous êtes orienté vers la sonorisation d'une salle de concert ou la captation pour un enregistrement ?
Alors la question est bonne parce qu'effectivement, souvent on fait un peu l'amalgame. J'estime que la sonorisation d'un espace sonore, que ce soit un stade ou que ce soit le studio 105, la maison de la radio, c'est un métier vraiment à part entière. Alors évidemment, ça découle de techniques du son et de choses assez basiques comme le mixage, comme l'égalisation et la connaissance de la sonorisation. Mais moi, c'est vraiment pas mon domaine. Moi, mon domaine reste la captation et je me suis toujours vraiment... pas démarqué, mais en tout cas, quand on me posait la question, moi j'ai beaucoup de respect pour les sonorisateurs de la maison de la radio qui font un travail vraiment exceptionnel, qui ont vraiment un savoir-faire bien à eux et qu'ils ont développé. Moi, je suis vraiment dans l'espace de captation.
Oui, parce que c'est vrai qu'en plus, il faut le signaler, ça peut surprendre un petit peu, mais effectivement, les ingénieurs du son qui viennent de Radio France ont un tout autre vocabulaire, justement, par rapport aux autres ingénieurs, quand on parle soit avec des ingénieurs du son de salle de spectacle, soit des ingénieurs du son de captation. Ils ont vraiment un vocabulaire qui est particulier et qui montre justement une certaine richesse, une certaine histoire. Vous-même, est-ce que vous avez dit que vous aviez appris à jouer du violon ? Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique ? Je tiens à préciser que le Larsen ne compte pas.
Alors, j'ai fait beaucoup de violon. J'ai commencé à 8 ans. J'en ai fait assidûment pendant toutes mes études jusqu'à mon bac vers 18 ans. Après, je suis parti de l'endroit où j'avais fait mes études. Je suis parti à Annecy. J'ai essayé de poursuivre, de continuer à faire du violon. J'en ai un petit peu fait. Quand j'ai été étudiant à Boulogne-Billancourt au CNR en classe de prise de son, j'ai fait l'effort de continuer à en faire, de garder vraiment ce contact avec la musique jouée, parce que je pense que c'était vraiment important avec les études, avec les autres spécialités musicales qu'on nous enseignait, comme l'écoute critique, comme le solfège, évidemment, comme l'histoire de la musique, voilà. Et puis, quand je suis entré à Radio France, j'ai continué à en faire un peu, un an, deux ans, trois ans, puis un moment où j'ai posé le violon, parce que je pense qu'il y a eu une espèce de croisée des chemins, il y a eu une espèce de transition où je me suis mis à faire beaucoup de productions de musique classique. Et en fait, la dose de musique que j'écoutais journalièrement était vraiment très élevée. J'avais vraiment une soif et une envie de faire de la production, de faire des disques, de faire du montage et de faire de l'enregistrement de musique classique. C'était un peu trop pour continuer à faire du violon, donc j'ai arrêté. Le violon est dans la boîte. Je pense que je vais peut-être l'amener chez le luthier pour vérifier qu'il n'y a rien de grave, mais en tout cas donc je ne fais plus de violon maintenant. J'emmerde tous les jours les instrumentistes avec mes indications de direction artistique ou de montage, mais non, je ne joue plus, malheureusement.
Et du coup, justement, par le fait que vous avez une culture de musique et d'interprète, cela aide justement votre métier en tant qu'ingénieur?
Moi, je pense que dans le métier d'ingénieur du son en musique classique ou en musique en général, la pratique d'un instrument, à mon avis, elle est essentielle. On ne peut pas faire ce métier sans avoir toucher ou alors pratiquer, c'est essentiel. Je pense que tous les ingénieurs du son, tous les directeurs artistiques de cette planète qui produisent pour tous les labels existants ont fait du piano, du violon, de la flûte, tout ce que vous voulez, de la clarinette, mais je n'imagine pas quelqu'un qui ferait mon métier sans avoir un instrument entre les mains. D'ailleurs, on a pas mal d'opérateurs du son, et même la majorité, pour pas dire même la totalité, qui jouent tous un instrument, que ce soit de la basse, de la guitare électrique, du violoncelle. On a des exemples du saxophone. Enfin, je pense que tous mes collègues opérateurs du son jouent de quelque chose, ça c'est sûr.
Et du coup, peut-être, vous connaissez un petit peu le parcours de vos collègues. Comment ils sont devenus ingénieurs du son dans la musique savante? Est-ce qu'ils tentent au feeling après quelques festivals de greencore où il faut passer par un rite initiatique, genre compagnonnage, Tour de France, etc.?
Il y a des parcours, il y a autant de parcours qu'il y a d'opérateurs, mais moi je pense plutôt pour la deuxième solution. C'est vrai que c'est quelque chose en plus qu'on a beaucoup défendu à Radio France entre collègues, surtout quand j'étais encore opérateur du son à la radio, le compagnonnage pour transmettre le savoir-faire de Radio France d'opérateur à chef opérateur ou l'inverse, ou voilà, la circulation des savoirs se fait énormément par compagnonnage. Il n'y a pas d'école officielle comme on peut l'imaginer. C'est vraiment quelque chose de totalement artisanal, avec la noblesse du terme, hein, bien sûr. Et puis, mes collègues qui travaillent plutôt à l'extérieur, qui ne sont pas passés par Radio France, ont fait. Il y en a beaucoup qui ont fait le Conservatoire de Paris, qui a une excellente classe de formation supérieure en métier du son en 4 ans, qui est niveau ingénieur et même compositeur niveau musical, c'est très très élevé. Il y en a qui ont fait leurs études en Allemagne aussi, il y a des écoles à Detmold, il y a des écoles à Berlin, à Vienne, en Pologne aussi. Enfin, il y a vraiment sur le sol européen énormément de possibilités pour devenir ingénieur du son, ça c'est sûr.
Est-ce qu'il y a une coterie des ingénieurs du son de musique classique, genre des rencontres IRL after work où ils se rencontrent même d'entreprises concurrentes, des exercices entre potes ou un forum secret pour réaliser parfaitement la captation d'une vielle à roue?
Alors, la captation d'une vielle à roue, vous croyez pas si bien dire, parce que l'admission d'un compte à rond à l'improviste, j'ai été confronté, on va dire, je vais pas dire le problème, mais en tout cas, à ce cas particulier, ce cas de figure d'enregistrer, de retransmettre une vielle à roue, ça n'est pas simple. Mais en tout cas, ça fait partie du panel de la richesse de ce qu'on est capable de capter à la radio. Est-ce qu'il y a des rencontres entre ingénieurs du son? Oui, moi, je pense qu'il y en a. En tout cas, il y a beaucoup, à la radio, il y a énormément de synergie et d'amitié entre ingénieurs du son, entre sonorisateurs, il y a beaucoup de choses qui circulent. On va pas parler de corporatisme, mais il y a vraiment une peut-être si il y a une corporation des ingénieurs du son à la radio, ça c'est sûr. Et les gens se parlent beaucoup, échangent beaucoup, et voilà, c'est ce qui fait la sympathie aussi de notre entreprise. Mmh.
Qu'est-ce qui fait la spécificité de la captation de la musique classique ? C'est savoir lire une partition, c'est se dire on va enregistrer dans une immense salle qui a une acoustique et qu'il va falloir aussi reproduire ou jouer avec. C'est le fait qu'il y a un public.
Je pense que le public n'a peut-être pas grand-chose à voir là-dedans. Nous, à la radio, notre cahier des charges comme ingénieur du son, comme directeur du son, comme opérateur du son, c'est avant tout de capter des concerts. Alimenter l'antenne de France Musique. On fait des disques aussi, c'est aussi une spécialité qui en découle. On fait des disques en studio, on fait des disques en live avec Raccord. Mais c'est vrai que notre premier métier, les premières opérations quand on commence en musique classique au plateau, voilà, c'est pour capter un concert de musique classique pour France Musique. Donc, effectivement, on apprend au studio 104, le studio Olivier Messiaen, le studio de 960 places. On apprend à l'auditorium qui est une salle de 1450 places. Et on va dire qu'on apprend à faire de la prise de son acoustique. Voilà, contrairement aux autres genres de captation qui sont la pop, le rock, tout ce que vous voulez, le jazz, voilà. On doit capter un orchestre en acoustique. Donc ça veut dire qu'on a des techniques de prise de son avec des micros appairés, avec beaucoup de micros électrostatiques, voilà. Et puis on apprend à positionner nos micros, à en optimiser la place. Et puis après c'est toute une histoire de, enfin souvent je compare ça un peu à le mixage de la plomberie, c'est un peu des robinets à ouvrir, et puis on met un peu d'eau chaude, un peu d'eau froide, tout ça se fait vraiment à l'oreille. On va dire que l'oreille, c'est l'organe qui commande les doigts sur la table de mixage. Et après, on fait avec son oreille. Et je dois dire que la maison de la radio et l'apprentissage à la radio nous apprend avant tout et avant de mixer, elle nous apprend à écouter. Et ça, c'est essentiel.
CCPU, l'émission Carré Petit Utile. Et nous sommes avec Dimitris Capolan, opérateur son pour Radio France, pour parler de captation de musique classique. Les salles de concert ont chacune leur spécificité, ça on l'a dit dans l'épisode 2 justement sur la radio numérique, avec un lien extrêmement intéressant de Red Bull Music Academy sur l'équivalent de la maison de la radio à Berlin-Est, qui est absolument hallucinant. Tu es attitré à certaines où tu peux intervenir à tout moment sur une salle que tu ne connais pas.
À la maison de la radio, je connais tous les studios pour y avoir travaillé depuis 20 ans, avec une préférence pour le studio 104 et l'auditorium.
Attends, je veux savoir, tous les studios, même le fameux studio secret qui est dans le bunker au fin fond, là.
Alors, il y en a pas.
Enfin, il y en a plus maintenant.
Il y en a plus. Effectivement, les anciens abris anti-atomiques ont servi beaucoup de chambres de réverbération. On y mettait des micros avec, des haut-parleurs, et puis on demandait au centre de modulation CDM, on passait un coup de fil, et on dit voilà, je voudrais telle chambre d'écho, est-ce que tu peux me brancher, voilà, puis il y a une espèce de truc d'électro-aimant, donc c'est très très drôle. Mais je les ai vus, effectivement, les abris anti-atomiques, je pense qu'ils existent toujours, maintenant ils servent de stockage. Mais en tout cas, oui, je connais tous les studios de la maison de la radio. Et oui, donc en musique classique, on a plutôt une prédilection pour l'auditorium et le 104. Et à noter que le 103 n'existe plus. Il y avait un studio qui s'appelait le studio 103. Et en fait, ils ont cassé la cloison entre le 102 qui était la télévision et le 103 qui était un studio de répétition d'orchestre où pas mal de grands échiquiers se sont faits avec Jacques Chancel. Et ils ont fait cet énorme auditorium, designé par les Japonais.
Et du coup, est-ce que tu peux être amené, je ne sais pas, si on te dit, tu vas faire une captation à Toulouse, dans la Halograin, ou je ne sais où.
Eh bien oui, et ça m'est déjà arrivé. Ma première opération d'ailleurs en extérieur, ça a été à Toulouse, à la Halograin, avec l'Orchestre du Capitole. Je crois que c'était un concerto de Rachmaninov avec peut-être Nikolaï Louganski, je crois que c'était ça. Et après, moi, j'en ai fait énormément. J'en ai fait à Lyon, j'en ai fait à Lille. J'en ai fait au fin fond de la Sarre, au-dessus de Strasbourg. Enfin, j'ai énormément voyagé à Marseille. J'ai fait les Troyens avec Roberto Alagna à Marseille. Enfin, je compte plus les opérations. J'ai fait Corégie d'Orange, j'ai été sur Aix-en-Provence. Plus on est spécialisé en musique classique et on va dire en musique, même en musique en général, même sur le rock pop, on est amené à voyager beaucoup. Et en vidéo aussi, ce que je fais, c'est beaucoup plus parce qu'on peut faire des opérations pour Charlene Van Hanecker, France Inter, etc.
Et du coup, combien de temps il faut pour, quand on va capter justement donc en acoustique, combien de temps il faut pour se caler par rapport à l'acoustique de la salle, son organisation, les placements de chacun et les placements en régie?
Alors, quand le monde est bien fait, on arrive la veille, on installe, on va dire qu'on a à peu près une heure de déchargement de tout le matériel, que ce soit un camion, un semi-remorque ou une régie mobile. On se donne à peu près entre, suivant l'effectif d'orchestre et la complexité des lignes à tirer, notamment les suspendus, ça c'est vrai que c'est le plus compliqué. Même les lignes de fibre optique entre le car régie et le stage box qu'on place, on va dire, en coulisses, on a à peu près entre 2 et 4 heures d'installation. On cale tout ça et puis le lendemain, on arrive, on va dire, 1 à 2 heures avant que l'orchestre ne s'installe pour sa répétition générale. Et on ajuste pas mal de choses avec la mise, ce qu'on appelle la mise de l'orchestre, c'est-à-dire que les régisseurs de l'orchestre vont placer les chaises, les pupitres, en fonction des œuvres, et nous, on va faire suivre les micros, les pieds, tout ça. Et voilà, après, c'est un travail d'équipe. Il y a le directeur du son qui est derrière sa console. Il y a un opérateur qui est sur le plateau ou deux, même deux opérateurs. Le musicien metteur en onde qui est derrière le directeur du son avec sa partition. Et puis, tout ça se passe avec des intercoms pour qu'on puisse utiliser le temps qui nous est imparti et capter et commencer à enregistrer déjà la générale. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Alors, c'est beaucoup plus souple à la maison de la radio parce qu'on a des pré-générales et on peut prendre plus de temps pour placer des micros. Quoique, maintenant, l'auditorium de Radio France, on commence à savoir où les placer.
Oui, j'imagine que ça doit être nettement plus simple quand on est à la maison. Combien de types de micros différents vous pouvez manipuler à la fois? Et combien d'entrées micro vous avez, du coup, sur votre régie en général?
Dans la régie A, donc, qui sert à capter les concerts à l'auditorium, donc c'est une Lavo MC266. On a presque 160 lignes libres, voilà.
Ah ouais.
Mais non, on les utilise pas toutes. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme une matrice. C'est-à-dire on utilise de 1 à 64 pour ce qui est du plateau, et puis on a de 65 à tel chiffre pour tout ce qui est suspendu. On a des carré Yamazaki, on a des lignes suspendues, des chœurs, pas mal de choses. Connecté avec le gris notamment, mais en musique classique, on va dire sur un orchestre symphonique, sur une symphonie de Mahler, de Bruckner, on va pas plus de à 60 lignes. Par contre, sur un opéra, on peut monter jusqu'à 120 facile avec les chanteurs, le plateau, les HF. Oui, là, ça monte très très vite.
Ah oui, quand même. Sur les types de micros, qu'est-ce qu'il y a? Il y a surtout du dynamique. Je sais que Radio France.
Et non, justement, c'est l'inverse. Non, on n'utilise pas de micro dynamique. On utilise beaucoup de micro statique en fait. Mm-hmm. Parce que le micro statique est beaucoup plus sensible. On va dire qu'il a une meilleure fidélité au son que le micro dynamique. Et donc, on a en marque de micro, on va dire qu'on se concentre sur 4 ou 5 marques, que ce soit Bruel Ecker DPA, que ce soit Shops, que ce soit Neumann. Après, on a des petits canards que certains collègues utilisent. On a du Sennheiser, bien sûr, pour les percussions. On est du audio, pas du Audio Technica du tout. On n'a pas d'Audio Technica du AKG, mais parfois des collègues utilisent des Audix sur les timbales, ça marche très très bien. Et voilà, on se concentre surtout sur ce parc de micros, mais on peut en mettre effectivement une quarantaine.
Je parlais de l'ORTF tout à l'heure, puisque donc dans les années 50, ils avaient travaillé sur cette technologie. Il y a encore une unité de conception quelque part au sein de la maison de la radio, je ne sais pas, soit à Radio France ou à l'INA.
Alors, pour revenir un petit peu sur le micro RTF, effectivement, l'ingénieur qui a conçu le couple RTF typique qu'on utilise toujours en fiction, parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace, avec ces capsules cardioïdes de chez Shops, Albert Laracine, voilà, avec qui j'ai eu des cours, Albert Laracine, sur le couple RTF, donc j'ai eu cette chance. À l'époque, on se préoccupait beaucoup du respect de la phase entre la gauche et la droite. Voilà, parce que les gens écoutant en mono, l'opération de mono sur un transistor, c'est l'addition, on va dire la moyenne entre la gauche et la droite. Et si vous avez une opposition de phase, ben c'est mort. Vous pouvez oublier, vous n'entendez plus rien. Donc le respect de la phase était essentiel.
Même en diffusion FM.
Diffusion FM. Le corrélateur de phase, c'est quelque chose qui nous suit énormément en radio, que ce soit à France Inter dans les studios de d'antenne ou que ce soit en prise de son classique. Voilà. L'ingénieur du son fait gaffe à la phase. Maintenant, en musique classique, le problème du couple RTF, c'est qu'il utilise des capsules cardioïdes, et les capsules cardioïdes coupent, on va dire, les bas, donc les basses, assez vite, et on perd en timbre. Donc, c'est pas très intéressant pour une prise de son globale. Un autre musicien metteur en onde de la maison de la radio a développé un autre couple plutôt AB, un peu plus distant, on va dire, de entre 40 et 50 centimètres, avec des micros qui étaient utilisés à la base pour de la mesure. C'était Bruel Ecker, ces micros danois, les micros Omni, et là, on a obtenu vraiment quelque chose d'assez bluffant, puisqu'on gardait quand même la bande passante, on gardait ce timbre, cette chaleur, cette générosité dans un orchestre. Et on va dire que l'utilisation des DPA s'est complètement pérennisée et que notre couple de prise de son en musique classique à France Musique, tout le monde utilise sans exception un couple de DPA 4006 suspendu au-dessus d'un orchestre. Voilà, ça c'est la marque de fabrique.
On a parlé de la vie à la roue et je l'avais cité, sachant pertinemment quels étaient les pièges de ce truc. Est-ce qu'il y a des instruments sur lesquels la captation doit se faire assez différemment, doit être conçue d'une manière spécifique, demande une certaine mise en place?
En fait, on va dire que chaque instrument se capte différemment, que ce soit dans un orchestre, que ce soit en musique de chambre, que ce soit en solo. On va dire qu'on adapte, notre système de prise de son pour respecter les timbres. On sait à peu près quoi utiliser et c'est aussi, on va dire, un compromis avec le savoir-faire de chacun. Chacun a ses marottes, ses micros, ses systèmes, donc on reste dans l'artisanat. Dans les cas de figure un peu plus compliqués et les cas d'école, je me souviens qu'en 2014, on était amené avec une équipe de Radio France à aller au Jardin des Plantes à Paris et on devait faire une expérience géologique et paléontologique, on devait enregistrer un concert de lithophones. Donc les lithophones, ce sont ces pierres longues conservées donc au Muséum d'Histoire Naturelle et sur lesquelles les hommes des cavernes frappaient pour faire de la musique. Donc il y en a toute une collection. Ils étaient sortis avec des gants blancs et disposés comme des xylophones et on a eu droit à une espèce de concert de lithophones par les musiciens de l'Orchestre National de France. Et là, je dois dire que c'était quand même une expérience assez particulière.
Vous le classez dans instrument à percussion, je suppose. Est-ce que 4 minutes 33 de John Cage est une pièce difficile à capter ou pas?
Moi, j'allais dire non, mais je pense qu'on est ici dans le négatif. Dans le négatif de la musique, à savoir que si elle est donnée en public, et je pense que cette année, en plus, j'étais pas au concert, mais Mikko Franck l'a donnée avec le Philharmonique de Radio France, et je pense que effectivement, là, on entre dans la captation du négatif de la musique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de son ennemi.
C'était l'idée de John Cage, c'est que ça soit joué en public, c'était voilà. Justement entendre les derrière.
Exactement. Et je dois dire que la mise en abîme de la chose, d'avoir vraiment en plus édité et d'avoir sorti une partition de ça avec des mesures vides, c'est vraiment extraordinaire. Mais je pense que le vivre, c'est encore mieux. C'est extraordinaire, ouais.
Une partition, c'est extrêmement compliqué sur un orchestre puisqu'il y a de multiples couches, etc. Est-ce que vous êtes passé de la partition papier à la partition au format numérique avec des tablettes ou finalement, non, ça n'est pas encore entré dans les mœurs?
Alors, c'est une très bonne question, ça. Parce que moi, je suis très papier, je lis, mais je n'ai pas de liseuse pour lire de la littérature. J'adore le papier, je suis encore de l'ancienne école. Mais c'est vrai que j'ai certains collègues qui développent ce genre de choses, tablettes, effectivement, pour faire de la direction artistique, et donc stylet avec la possibilité de modifier le PDF, d'annoter des choses. C'est vrai que c'est beaucoup plus pratique, parce que quand on a un plan de montage à envoyer, Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, ben, on vous l'envoie par mail et puis vous le recevez dans la seconde. C'est génial. Moi, je pense que c'est beaucoup plus adapté, par contre, pour des quatuors où j'en ai vu, effectivement, disposer de 4 tablettes. Donc, il y a plus de ces monceaux de partitions à trimballer à travers les avions. On a tout le répertoire dans une tablette. Donc, il faut de la batterie, il faut une pédale pour tourner. Mais je vois beaucoup d'ensembles développer ça. À la radio, c'est en train de venir, mais doucement. On va dire que c'est tributaire aussi du matériel dont on dispose.
Et dans ce cas-là, il faut une baguette de chef d'orchestre en Bluetooth.
Mais ça, je rêve de voir Emmanuel Krivine avec une baguette de chef d'orchestre en Bluetooth. C'est quelque chose. C'est un rêve personnel. C'est une vision.
On peut passer le message à quelques Fab Labs ou des fabricants pour mettre des gyroscopes dessus, ça peut être drôle. On voit souvent sur les vidéos des captations de concerts, les musiciens des orchestres philharmoniques ou symphoniques avec des oreillettes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dans ces oreillettes? Le retour, un top métronome, les ordres du réalisateur ou juste une partie de leur retour?
Alors, effectivement, ça arrive qu'on puisse voir des choses dans les oreilles des musiciens. Et un jour, effectivement, je voyais dans le retour vidéo des musiciens qui avaient des oreillettes, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, non, ce ne sont pas des oreillettes, ce sont des bouchons d'oreilles. Pourquoi? Parce que c'est le rang d'orchestre qui est situé juste devant soit des cuivres, soit des percussions. Et quand vous avez une timbale derrière vous ou bien une rangée de trombones, de trompettes et de bugles qui se met à faire du Wagner, vous ne pouvez pas jouer sans
protection.
Sans protection d'oreille, c'est exactement ça. Après, les autres types de d'oreillettes, c'est quand nos orchestres font la musique de film. Là, effectivement, ils ont un top, ils ont... Mais ça, c'est vraiment un mode d'enregistrement tout à fait particulier.
Quelle a été ta plus belle émotion lors d'une captation?
Alors ça, c'est très très dur à dire parce que je pense que j'en ai eu énormément. C'est bizarre parce que l'exemple qui me vient à l'idée, c'était pas du tout de la musique classique. C'était une de mes dernières opérations comme opérateur du son à la radio. C'était le concert de Gérard Depardieu qui chante Barbara au 104. C'était quelque chose de... Nous, on s'attendait vraiment à une catastrophe parce que, voilà, c'est avec le personnage, avec la mise en scène, tout ça, c'était... Et en fait, je me suis aperçu vraiment du génie de cet homme qui est d'une certaine manière sur scène très écorché et qui arrive vraiment à nous inonder de cette espèce de poésie et de choses sur le fil... C'était vraiment très particulier. Après, moi, j'ai un autre souvenir vraiment ému, mais c'est une Madeleine de Proust qui me suit depuis 2007. C'était pour moi d'avoir ma première expérience d'opéra au Corrigi d'Orange. C'était la captation de Madame Butterfly de Puccini. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a totalement... J'en ai encore des frissons, même, d'ailleurs. Et quand j'ai refait... Je l'ai fait une deuxième fois à Lille, à l'Opéra de Lille. Mais c'est quelque chose qui me bouleverse absolument profondément au niveau du langage musical, de la mise en scène, du côté dramatique. Pour moi, on est dans l'avant-garde du film, du blockbuster, mais opéra. Il y a tous les ingrédients et les éléments pour nous faire pleurer. C'est extraordinaire.
Et ton pire cauchemar? Bon, alors je peux modifier ta voix si tu as besoin d'anonymat. Hein.
Mais je pense que celle qui ne pourra jamais écouter, à mon avis, je pense ça. Mais effectivement, j'ai eu un cauchemar. Alors je pense que ça a dû être en 2008, 2009, 2010. C'était assez loin. On nous mettait un petit peu à des postes pour nous expérimenter, et on a eu la très mauvaise idée de me placer comme poseur de micro pour les chanteurs d'opéra à l'Opéra Bastille sur un opéra qui s'appelait Lady Macbeth de Verdi, et ça a été, à mon avis, l'échec le plus terrifiant de toute ma carrière. Et je me suis vraiment dit, mais il y a des gens qui sont vraiment capables de faire ça, et moi, je ne suis absolument pas capable de faire ça. Poser un micro, c'est très facile, mais négocier, on va dire, un slot, un timing pour le faire, garder son calme, j'avais l'impression que dans les services secrets, c'est épouvantable. Donc, je devais juste faire poser un micro et la maquilleuse me dit, oh là là, non, c'est pas le bon moment, il faut pas y aller, elle est énervée. C'est une espèce d'énorme soprane de 95 kilos qui devait une espèce de sirène hurlante qui devait remplir les 2000 places de Bastille. Et là, je me suis dit, mais non, mais je suis pas du tout à ma place. Et là, quand je me sens pas du tout à ma place, là, ça peut vraiment devenir très long et vraiment mon pire cauchemar.
Donc, la légende des divas, ça existe. Et la musique s'arrête quand la grosse dame a arrêté de chanter.
C'est indéniable.
CCPU, l'émission Carré Petit Utile. Et nous sommes avec Dimitris Capolan, opérateur son pour Radio France, pour parler de captation de musique classique. C'est vraiment par hasard, en fait, qu'on se retrouve à parler, avec toi sur ce sujet, puisque c'est donc une série qui est faite pour introduire l'arrivée de la radio numérique en diffusion, en broadcast. J'ai fait deux précédentes émissions où je devais être aidé. D'ailleurs, je ne dénoncerai pas ceux qui se sont lâchement défilés après tout devant la tâche de l'écriture et du montage. Mais j'ai sûrement dit beaucoup de conneries. Peut-être que tu as des choses à me corriger. Vas-y, tu peux y aller, tu peux me fesser cul nu.
Non, je ne pratique pas ce genre de choses. Je connais des gens à la radio qui le pratiquent, mais moi personnellement, c'est pas vraiment, pas du tout ma tasse de thé.
Les musiciens de l'Orchestre National de France sont confinés chacun de leur côté, ce qui ne les a pas empêchés de jouer le boléro de Ravel dans une interprétation assez émouvante, qui, au coquin de sort, est réalisée par ta personne. Quelle a été la spécificité de l'enregistrement ? Est-ce qu'il y a eu un top ? Est-ce qu'il y a un retour ? Est-ce qu'ils enregistrent chacun de leur côté ? Ou c'est tous en même temps via Skype ou Zoom ?
Alors, on va déjà écarter la dernière solution, puisque les délais de transmission étant ce qu'ils sont, ça empêche considérablement de pouvoir jouer ensemble. On m'a posé plusieurs fois la question. Là, depuis 4-5 semaines, je deviens chef de projet ingénieur, alors que j'ai jamais été comme ça, et on me consulte. Je suis consultant maintenant, voilà, en musique jouée, en mosaïque, en musique symphonique, en musique, voilà. Donc, il y a deux possibilités pour s'enregistrer.
C'est vrai que c'est un succès mondial, hein. Je crois que je vous ai vu sur une chaîne, dans le journal d'une chaîne américaine.
Ah, c'est vrai?
J'ai dit, c'est, je crois, je sais plus.
Ah oui, alors je veux retrouver le truc. Mais effectivement, il y a deux modes opératoires. Ça dépend du cas de figure et ça dépend du morceau joué. Soit un premier instrumentiste joue et puis passe à ses petits camarades ce qu'il vient de jouer, chanter, tout ce qu'on veut. Et puis les autres se calent et se filment en même temps. Soit effectivement, il y a l'expérience du clic. Alors l'expérience du clic, c'est un petit peu contraignant parce que le clic étant très régulier, eh bien, ça empêche un petit peu la flexibilité du tempo. Donc, c'est un peu dommage. Et puis, c'est aussi un métier. On va dire que moi, je suis de moins en moins pour le clic parce que le clic peut perturber énormément les gens. Ça peut un petit peu les stresser, les contraindre. Donc, on a un petit peu on a des résultats pas forcément très probants. Il vaut mieux peut-être une bande enregistrée en dessous qu'on a dans les oreilles. Et ça marche plutôt bien.
Et du coup, que penses-tu des micros des smartphones ? Puisque, d'après ce que j'ai compris, ils l'ont enregistré avec leur smartphone.
Alors, le micro du smartphone, effectivement, c'était, on va dire, une hérésie dans tout système de prise de son, sauf expérimental, ou tout ce qu'on veut, musique concrète, et là, ça se justifie. On va dire qu'on est revenu dans un mode qu'on à Radio France, on appelle dégradé. Produire en mode dégradé. Donc effectivement, on peut considérer le micro du smartphone en se pinçant le nez, mais moi j'ai un peu, je suis beaucoup plus pragmatique que ça et je me dis mais voilà, il y a un moment il faut faire avec. Personne n'a de zoom, personne n'a de table de mixage ou de préampli avec une paire de DPA devant le nez pour s'enregistrer. Donc on va faire avec et effectivement le micro du smartphone est fait pour de la voix, c'est indéniable. Donc il est déjà corrigé à l'entrée, il est déjà corrigé à la dynamique, à l'égalisation. Mes premières expériences avec le boléro et même avec la valse de Shostakovich, puisque là j'ai vraiment mixé 60 téléphones portables ensemble, mis à part le travail de montage qui m'a demandé beaucoup beaucoup de temps, la couleur en fait du smartphone peut amener quelque chose d'assez analogue à ce qu'on avait dans les années 50 ou 60 avec des micros à charbon, des micros assez secs. Des micros avec une dynamique déjà corrigée, une égalisation corrigée. Donc moi je le prends un petit peu comme tel. Effectivement, c'est pas très riche pour de la musique classique, c'est pas très avantageux. Ça peut rapidement tasser, mais je pense qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant. Et puis notre travail avant tout, c'est de mettre en valeur la musique qui est jouée. Donc le micro de téléphone portable, ça détruit une partie du signal et du message. mais on va essayer de rattraper et de corriger ce qui reste. Et puis le reste est parfois très étonnant.
Et du coup, qu'est-ce que tu penses quand tu vois un équipement, genre un micro de champ AKG avec une capsule 1 pouce de diamètre et un ramasse-bave, le tout à 1 500 €, tout ça pour qu'un mec fasse sur Twitch commente sa performance de One Lifer à Counter-Strike.
Alors, comme diraient certains, je ne mange pas de ce pain-là, donc je regarde en m'esclaffant, mais c'est pas du tout dans mon savoir-faire. Mais par contre, ça m'amuse beaucoup.
Mais au moins, ils font baisser les tarifs de gros.
Ça, c'est sûr.
Toi-même, tu as une installation pour écouter de la musique. Qu'est-ce que tu utilises? Tu as un casque? Tu as un ampli? Quelle est ta préférence un petit peu?
Alors, au niveau casque, oui, au niveau casque, je l'ai à côté, là, à côté de moi, voilà. J'ai un casque qui me suit depuis des années. Alors, c'est pas le même, hein, parce que les casques, ça s'use et donc j'en change souvent, mais je ne change pas de modèle. En musique classique, moi, j'adore le Beyer Dynamic DT880 Pro. C'est vraiment, pour moi, mon outil de base, c'est mon couteau suisse. Et chez moi, effectivement, j'ai une installation.
Alors, juste une question, c'est un casque, c'est un moniteur ou c'est un casque d'écoute?
C'est un casque d'écoute, c'est un semi-ouvert.
D'accord. Donc, il a.
Un casque fermé.
Il donne un petit peu de préférence, de chaleur au son, il n'est pas neutre, quoi.
Non, il n'est pas neutre. Malheureusement, ouais, il est pas neutre. Contrairement aux Sennheiser qui sont effectivement beaucoup plus analytiques et très intéressants en montage, puisque il laisse passer aucun point de montage douteux. En installation chez moi, il y a des années, j'étais encore jeune opérateur et j'avais décidé, c'était mon cousin qui m'avait conseillé ça. Il m'avait dit, mais va à la maison du haut-parleur et fais-toi faire un kit. Et j'avais visité, j'avais vu, j'avais écouté pas mal de choses et j'étais resté en arrêt devant une paire de Dynaudio qui n'avait jamais été commercialisée parce que l'ingénieur de Dynaudio s'était fâché avec avec sa boîte ou ses fabricants, je sais plus, et donc le modèle, le kit en fait n'avait jamais été commercialisé. C'est des enceintes passives. Et donc j'avais fait faire par un menuisier la caisse, j'avais fait tout ce qui était raccord, soudure, moi-même. Et je les ai toujours dans mon salon, et c'est étonnant parce que j'ai beaucoup de plaisir à écouter toutes sortes de musiques, de cinéma, de jazz, de tout ce qu'on peut écouter, même la radio. Moi, j'adore, je suis vraiment fan. Après, moi, j'ai des rêves énormes. Hein. J'adore les Nautilus, j'adore tout ce qui est enceinte anglaise, les BW. Moi, je suis absolument fan de ces enceintes de monitoring. C'est un rêve pour moi, mais c'est pas encore dans mon porte-monnaie.
Est-ce qu'on doit mettre une limite sur un budget pour quelqu'un qui est moyennement exercé à l'écoute? Est-ce qu'au bout d'un moment, c'est juste de la frime?
Non, moi, peut-être qu'il y a une part, effectivement, un moment d'excès, d'absolutisme, mais ça va un peu avec l'esprit humain et avec l'inaccessible. Mais moi, je pense qu'on peut commencer tout dépend de son exigence, après. Tout dépend de ce qu'on attend d'une installation. Mais je pense, moi, on peut commencer avec un budget qui va de 1 500 à 2 000, 3 000 € pour une paire d'enceintes et un ampli actif très bien. Après, effectivement, on peut basculer sur des budgets de 5, 10 000, 20 000, 50 000. On peut passer sur des enceintes électrostatiques. Il y a pas de limite. Je pense que chacun voit midi à sa porte. Nous, à la radio, on a plutôt la décision collégiale pour choisir des systèmes d'enceinte. Il y a un panel d'opérateurs et de chefs opérateurs qui écoutent à l'aveugle et puis qui indiquent leurs préférences. Et puis après, on décide d'acheter une paire d'enceintes. Comme ça que ça se passe.
Alors, j'ai un peu égratigné dans les précédentes émissions les DVD HD audio et les rééditions vinyles. Est-ce que toi-même, quand tu acquiers de la musique, c'est quoi? C'est du lossless à 192 kHz, 132 bits sur onde 7.1 ou binaural? On va pas s'embêter.
J'ai pas la place. Alors, c'est vrai que moi, le fichier audio que je manipule le plus en production, oui, chez moi ou à la radio, c'est du Wave. Donc, c'est BWF de base. Malheureusement, c'est vrai que ça prend beaucoup de place. Alors, je suis sur ma bibliothèque iTunes. Je convertis tout en MP3 320 kilobits par, enfin, la plus grande qualité que je puisse avoir. C'est du MP3 stéréo 48 kilos, mais le débit c'est 320 kilobits par seconde. Voilà, donc moi je convertis tout là-dessus. J'ai conscience que c'est pas forcément le meilleur format d'écoute, mais en même temps, j'écoute pas de la musique classique pour faire de l'écoute critique de prise de son. Pour moi, c'est vraiment le matériau musical qui m'intéresse. Je télécharge pas vraiment de musique. J'achète plutôt encore des disques. En fait, on en produit beaucoup de HD de 96 kilos en 24 bits, mais non, moi je voilà. Et puis par contre, sur les vinyles, tout dépend ce qu'on édite en vinyle. Des vieux Michael Jackson qui sont réédités en vinyle, quand ils ne passent pas par le traitement numérique et qui, alors ça c'est vraiment, il faut vraiment rêver. Mais moi j'ai eu de bonnes surprises, mais sur des vieux albums, sur des albums de cette période-là, 80-90. Après, ce qui s'est fait au moment de l'enregistrement numérique et passé sur un vinyle, j'ai pas vraiment écouté. Je sais pas. Bon. Voir.
Est-ce que tu as un album de référence, celui que tu réécoutes régulièrement pour juger de la justesse d'un casque audio, d'une chaîne IFI ou même de ta propre oreille? Bon, personnellement, puisque je suis impudique, je vais dire que je précise que le mien, c'est The Vault Old Friends for Sale de Prince. Dans son premier pressage, celui qui n'est resté en vente que 2 semaines parce que Warner était obligé par contrat de le sortir, parce que malheureusement, l'édition suivante a été remasterisée.
Et
compressée.
Non mais les ingénieurs du son américain font un travail absolument exceptionnel. Il y a un son américain, c'est génial. Et les Michael Jackson ont vraiment un son. Enfin c'est du modèle. Alors c'est vrai que moi qui viens plutôt de la musique classique, oui j'ai des enregistrements un peu de prédilection de chez Deutsche Grammophon. J'ai des enregistrements de Ravel, de Debussy avec Boulez, qui ont dû être enregistrés dans les années 90-2000. Et qui était vraiment très bien enregistré avec des très beaux micros, on se souciait vraiment énormément, beaucoup plus du qualitatif en passant beaucoup plus de temps que maintenant on doit faire vite au détriment parfois du qualitatif et du coût de ce que ça coûte. Donc il y a des enregistrements mythiques de Ravel avec Boulez, il y a des Rachmaninoff somptueux, enfin il y a vraiment des très très belles choses. Moi j'écoute beaucoup de symphonique pour tester un casque. C'est là où on s'aperçoit de la richesse harmonique, de la richesse des plans. C'est là où on peut en fait tester beaucoup beaucoup de choses sur la localisation, le timbre, sur la profondeur, sur beaucoup de critères de prise de son qui sont essentiels.
Dimitris Capelan, merci beaucoup. Félicitations encore une fois justement pour ton travail absolument impressionnant, donc de coordonner un orchestre entier en étant confiné et d'en faire un montage qui est absolument stupéfiant, et au plaisir.
Merci beaucoup, Xavier, de m'avoir invité. C'est très sympa.